Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour commencer cette émission, nous accueillons Frédéric au 3921. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Frédéric et quel âge avez-vous ?
Alors, je m'appelle Frédéric, j'ai 44 ans, je vis à Paris avec mon épouse et deux enfants. Nous avons deux petites filles de 6 ans et 9 ans.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène, Frédéric ?
Alors, qu'est-ce qui m'amène ? C'est un peu particulier. Mes petites filles sont dans une école alternative qui s'appelle l'École démocratique de Paris.
Oui.
Et cette école, comme beaucoup d'autres écoles démocratiques en France, se trouve dans une situation très difficile cette année. Ça a démarré l'année dernière et c'est principalement dû à une incompréhension avec les rectorats.
Oui. Elle découle de quoi cette incompréhension à votre avis ?
Alors cette incompréhension, elle découle, pour à mon avis, c'est de la grille de lecture que les inspecteurs imposent aux écoles démocratiques. C'est-à-dire qu'ils utilisent une grille de lecture qui a été conçue pour le système classique, le système traditionnel que l'on connaît tous très bien. Mais ce système repose sur une programmation extrêmement précise et des savoirs et des âges auxquels on doit acquérir ces savoirs. Et donc, toute évaluation faite sur cette base dans une école démocratique qui prend une toute autre direction à propos de l'instruction ne peut pas fonctionner. Ça amène les inspecteurs et les recteurs à des décisions assez inquiétantes qui vont jusqu'à pénaliser certaines familles en leur envoyant des injonctions de rescolarisation, par exemple.
Oui, d'accord. Et en fait, je suppose qu'il y a des visites du rectorat dans ces écoles démocratiques.
Alors oui, il y a une inspection qui doit avoir lieu tous les ans dans toute école. Qu'elle soit publique ou hors contrat. Oui. Là où le bât blesse, c'est que effectivement les inspections habituellement les écoles respectent un programme, alors que les écoles démocratiques ont une approche éducative complètement différente de cette approche traditionnelle. Elle n'est pas moins bonne, elle est vraiment différente, et elle implique que les enfants et les adolescents n'acquièrent pas nécessairement les mêmes savoirs au même moment que les enfants allant dans les écoles classiques. Et donc les inspections se basant essentiellement sur une grille de lecture qui a été faite pour la programmation ne fonctionnent pas du tout dans le cadre d'une école démocratique.
Alors, essayez de m'expliquer un petit peu, un peu moins techniquement, vous voyez, parce que vous vous adressez à des personnes qui débarquent complètement dans ce débat-là. Donc, il faut que vous soyez un peu plus, vous voyez, que vous vulgarisiez un petit peu votre explication. Quel est l'avantage de cette école démocratique et pourquoi, en tant que parent, avez-vous choisi de mettre vos enfants dans cette école ?
Alors moi personnellement, j'ai fait ce choix parce que moi-même j'ai connu ce type de système, de façon d'appréhender l'éducation au travers du lycée autogéré de Paris. Je suis un ancien élève de ce lycée. Oui. Ce lycée a des bases très très similaires de ce qui se pratique dans les écoles démocratiques, c'est-à-dire une vraie confiance et une liberté donnée aux membres de ces écoles d'explorer leur savoir, d'être acteurs de leur apprentissage et de laisser cet apprentissage se faire en toute liberté. Donc au lycée autogéré, il y a le principe par exemple de libre fréquentation. On n'attend pas d'un élève qu'il aille à tous les cours. Il y va parce qu'il a un objectif et il sait pourquoi il veut y aller. On ne va pas l'inciter si son projet d'exploration du moment est un projet tout autre qui est, je ne sais pas moi, l'artisanat en boulangerie, on va le laisser explorer ce domaine, on va laisser faire des projets plus artistiques ou plus techniques.
D'accord.
Et à travers ces projets, il va construire un parcours d'apprentissage et il va naturellement, si son projet requiert d'avoir un diplôme, d'aller dans une école particulière, il va naturellement raccrocher les cours et suivre son chemin.
Mmh. Et en fait, c'est tout de même un projet... philosophique, un peu humain, de mettre, je suppose, son enfant dans ce type d'école. Entendez par là que vous misez, vous savez que ce type d'école et ce que vos enfants vont vivre dedans est adapté à leur personnalité, à leur psychologie et qu'ils vont sans doute beaucoup mieux s'adapter à ce système-là.
Oui, tout à fait. Il y a cette dimension, effectivement, de différenciation entre chaque élève. C'est-à-dire que tous nos enfants sont différents. Ils n'apprennent pas de manière naturelle les mêmes choses au même moment. Et c'est un principe qu'on continue à appliquer dans une école démocratique. C'est un principe qu'on laisse faire jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va laisser un enfant, s'il s'intéresse à la lecture à 5 ans, tant mieux. S'il fait autre chose, tant mieux aussi. S'il s'intéresse plus tard, on le laisse s'intéresser. Et de toute façon, par les projets, par ses jeux, par la dimension multi-âge qu'on n'a pas abordée, qui est très importante, une école démocratique mélange les âges. Le lycée autogéré qui ne fait que le lycée mélange les âges. Le groupe de base, comme on appelle au lycée autogéré, est un mélange des différentes classes. Il n'y a pas de classe à proprement parler. Et de ce mélange naissent des projets, se nourrissent entre les gens et c'est très important. C'est une des bases de l'apprentissage dans ces écoles. Un petit va être fasciné parce que c'est un grand, on va tenter de l'imiter. Moi, il est très régulier que ma petite de 6 ans à l'école décide de faire des programmes et fasse des grandes grilles avec toutes les étapes pour atteindre son objectif.
D'accord. Et ils y sont depuis combien de temps dans cette école, vos enfants ?
Alors, ma plus grande est dans sa quatrième année.
Oui.
Et la plus petite est dans sa deuxième année.
D'accord. Et vous êtes donc content de ce qui se passe pour vos enfants là-bas ?
Alors moi, je suis tout à fait satisfait. D'abord parce que je vois mes filles évoluer vraiment première chose, elles sont heureuses d'aller à l'école. Elles sont tous les jours demandeuses d'aller à l'école. Il est arrivé une fois qu'on n'y aille pas parce qu'il y avait une qui était malade, ça a été la crise de larmes de l'autre. Donc c'est la première chose qui saute aux yeux des parents qui sont dans ces écoles, c'est que les enfants adorent leur école, ils s'approprient leur école et donc ils veulent absolument continuer dans cette école.
D'accord. Quels sont les problèmes alors que cette école démocratique rencontre aujourd'hui ? À votre avis, c'est basé sur quoi ? Qu'est-ce qu'on reproche à cette école ?
Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est assez nébuleux pour moi. En réalité, ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est de ne pas prouver qu'elle permet aux enfants d'acquérir toutes les connaissances du socle commun. Voilà. Attention, je dis bien que ne pas prouver par des traces écrites concrètes. On ne sait pas aussi, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que dans ces écoles, pour les ouvrir, il y a quand même des directeurs, des directrices qui ont tous des expériences dans l'éducation, puisqu'il faut 5 ans d'expérience pour être directeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en discutant avec certains d'entre eux, c'est que quand ils étaient dans le système traditionnel, les inspecteurs leur faisaient confiance sur leur évaluation, sur la capacité à évaluer leurs élèves. Et quand ils sont dans une école démocratique, cette confiance disparaît subitement. Leur statut d'anciens éducateurs disparaissent. On ne croit plus sur pièce s'ils disent « oui, tel enfant a évolué » parce que évidemment, il y a un suivi. Les adultes de ces écoles suivent les enfants et observent leur évolution. C'est juste qu'il n'y a pas d'évaluation et qu'on ne le fait pas sentir à l'enfant.
D'accord. Et vous craignez là, que cette école ferme, là, vous en êtes où exactement dans votre
oui.
réflexion? Oui.
Là, c'est la crainte pour cette école. Ce n'est pas la crainte d'ailleurs que pour cette école. C'est aussi l'objet de mon appel. Toutes les écoles démocratiques ces dernières années, enfin cette dernière année en particulier, ont subi des inspections. Pas une, mais vraiment à répétition, c'est-à-dire 2, 3, 4. L'école démocratique de Paris, je crois, on est à sa 3e cette année. Sur une inspection pour un collectif d'environ 35 personnes, parce que c'est des petites écoles dont on parle,
oui.
La première inspection, ils étaient venus à 7 inspecteurs. ce qui alerte et ce qui inquiète tous les directeurs, toutes les directrices de ces écoles, donc et tous les porteurs de ces écoles, et les parents, dont je fais partie, c'est que tout ça ne traduit pas d'une confiance, mais plutôt d'une volonté de transformer radicalement le projet de ces écoles, ce qui fait qu'elles ne ressembleraient plus à une école démocratique en calquant sur ce qui se fait sur la programmation de l'éducation nationale, soit de fermer. Et l'outil pour ça qui est utilisé, qui personnellement me révolte, c'est donc de faire une inspection à charge, sans écouter aucun argument de ce qu'est une école démocratique, ni écouter d'ailleurs ce qui se fait ailleurs, parce que ces écoles existent partout dans le monde. En Europe, il y en a. Il y a un pays entier, la Finlande, qui a récemment réformé son système entier en étant beaucoup plus proche de toutes ces valeurs qui sont portées par les écoles démocratiques, c'est-à-dire les apprentissages autodirigés, être acteur de son apprentissage, pas d'évaluation, pas de contrôle avant très 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 longtemps, pas de devoirs, peu de cours, on laisse explorer les enfants l'école, ils rentrent plus tard que n'importe quelle école en Europe, hein, les petits Finlandais, ils rentrent qu'à 7 ans à
oui,
l'école.
Oui, oui.
On leur demande pas de savoir tout de leur socle commun tout de suite, on leur laisse le temps. C'est pas grave si un enfant apprend pas à lire tout de suite, mais explore d'autres choses. S'il n'a pas les capacités, ça va être le discours, on va lui dire mais non, c'est pas grave, explore, et puis de toute façon, tout ça s'acquiert avec le temps. On leur fait confiance. Les petits Finlandais sont des très heureux d'aller dans leur école, un petit peu comme mes filles avec leur école. Et donc, je suis triste que nos rectorats, l'éducation nationale ne fasse pas ce pas qui est de regarder ce qui se passe ailleurs, de lever la tête de son système scolaire et de laisser les alternatives prospérer ou au moins exister.
D'accord. Et c'est vrai, c'est évident que là, on se demande pourquoi tout à coup cette... Parce que ça fait un moment qu'elles existent, ces écoles.
Alors, les écoles, en soi, le lycée autogéré dont j'ai parlé tout à l'heure, il va avoir 40 ans l'année prochaine.
Mmh.
Les écoles démocratiques, au sens où sont mes enfants actuellement, la première, je crois qu'elle a 6 ans en Europe, en France, pardon. En Europe, c'est plus ancien, mais en France, c'est assez récent. Alors peut-être que ça explique aussi cette méconnaissance totale de la part des rectorats et d'éducation nationale, mais ça n'explique pas cette posture arc-boutée sur la grille de lecture de l'éducation nationale cette non prise en compte de ce qui se fait ailleurs.
D'accord. Au final, qu'est-ce que risque cette école aujourd'hui et si le rectorat a raison, en fait, enfin obtient, c'est pas qu'il a raison, mais obtient ce qu'il veut, que va-t-il se passer exactement ?
Alors là, pour l'instant, l'école n'a pas reçu le résultat du rapport de la dernière inspection. La dernière inspection a eu lieu un jour avant le confinement.
Ouais.
alors que les écoles étaient en pleine préparation de la semaine qui allait rester à avoir, puisqu'il y a eu une semaine juste au confinement, ils sont venus le lendemain de l'annonce du confinement. Donc alors, pour moi, c'est pas déjà rien que ça. Ça montre quelque chose. C'est-à-dire qu'on sait très bien que toutes les écoles, qu'elles soient traditionnelles ou pas ou hors contrat, ont dû s'adapter à une vitesse folle pour pouvoir adapter leur pédagogie à la semaine à distance. Et les inspecteurs du rectorat de Paris ont choisi le lendemain de cette annonce pour venir inspecter l'école de Paris. Rien que ça, ça inquiète sur les réelles motivations derrière ces inspections. Ensuite, l'inspection, la manière dont elle se passe et le retour qu'on a des autres écoles, c'est que déjà il y en a beaucoup. Alors que les premières, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. La première année où l'école démocratique de Paris s'est fait inspecter, ça s'est bien passé.
Oui.
Et donc ça s'est bien passé, c'était cordial, il y a eu une vraie discussion et dès la deuxième année c'était plus du tout la même et là on parle de l'année d'après la première école qui s'est fait fermer en France. On était plus du tout dans le même rapport. Et les inspections se sont faites à répétition à partir de là.
D'accord.
Avec à chaque fois les mêmes reproches quelque chose que ne peut pas produire concrètement une école démocratique qui suivrait sa philosophie, plus des pratiques quand même très douteuses, qui me questionnent et qui devraient questionner notre ministère de l'Éducation, parce que c'est certains enfants, quand un inspecteur s'enferme avec un enfant pris au hasard, et donc déjà l'enfant n'est pas habitué, il est impressionné, il n'a pas ses moyens, et qu'on lui pose des questions tout à fait techniques sur le socle commun,
ça le déstabilise sans doute.
Ça le déstabilise. Il y a très peu de chances que le retour soit positif.
Vous m'étonnez.
Voilà. Sans compter que, autre exemple, quand il s'enferme avec un élève qui lui-même était en échec, en souffrance scolaire, qui a quitté le système parce qu'il ne pouvait plus y rester, parce qu'il y a quand même au bout de ce genre d'histoire des drames, qui trouve un second souffle dans une école démocratique et qui se retrouve enfermé, alors qu'il était lui-même en échec dans le système traditionnel, avec un inspecteur à essayer de répondre tant bien que mal à ses questions sur des points précis de connaissances et même pas de compétences, puisque je rappelle que maintenant il s'agit de compétences, ça ne peut que donner un rapport négatif. Alors qu'on devrait prendre en compte, cet élève, il a trouvé une école, il y va, si on lui pose les questions, je suis sûr qu'il dira qu'il est heureux, et que beaucoup, beaucoup d'élèves qui étaient en échec profitent des écoles, de ce genre d'établissement, pour se reconstruire, pour souffler, pour réfléchir et puis pour retrouver goût à l'école, justement. Certains vont aller passer leur brevet, leur bac en candidat libre en restant dans ces écoles, mais d'autres vont choisir de retourner dans le système armé de la confiance qu'ils ont repris. Mmh.
Et au final, donc là, elle risque vraiment d'être fermée, en fait, cette école.
Alors oui, elle risque d'être fermée. Ce à quoi on s'attend, c'est soit une mise en demeure de fournir des preuves écrites, une restructuration programmatique à l'image de ce qui se fait dans le traditionnel, soit sous peine en fait que la prochaine étape, ça va être des injonctions envoyées aux familles directement, parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la technique, c'est d'envoyer des injonctions de rescolarisation aux familles.
Oui, de rescolarisation en fait, c'est ça.
Oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'on estime même pas que c'est même plus que c'est une école.
Finalement, on estime que les gens qui ont réfléchi à cette école ne sont pas capables finalement de.
Exactement.
D'accord. Mmh.
C'est alors que bien des acteurs qui sont dans cette école sont très très au fait de toutes les études de ces dernières décennies sur l'éducation, sur l'apprentissage, les neurosciences, comment marche le cerveau d'un enfant, ses capacités de concentration, tout ça est pris en compte dans ce genre d'école et est suivi. Alors que notre système, malheureusement, peine à faire ça. Alors je dis peine parce qu'il y a bien des acteurs en interne qui le font. Hein. Il y a des instituts, il y a des profs qui tentent de faire ça. Oui. Récemment d'ailleurs, j'ai entendu une histoire. Il y a apparemment des professeurs qui tentent de s'inspirer des écoles démocratiques pour faire leurs cours. Mais ceux-là aussi ont des problèmes, malheureusement.
Mais, donc, bon, alors, moi, je vais vous dire ce que je pense, hein, c'est que, comme le dit Sophia, au 739-21, laisser ces écoles prospérer, ce serait pour l'éducation nationale reconnaître, quelque part, un échec, pas son échec, parce que l'éducation nationale n'est pas en échec partout, mais il y a beaucoup d'échecs. On connaît sur divers secteurs, hein, de l'enseignement, des revers, voire des échecs. Pourquoi ne pas laisser, d'ailleurs, ce système-là, qui est quand même, si vous me coupez si je dis une bêtise, mais qui est à la vue de tout le monde, hein, qui n'est pas... on peut rentrer dans les écoles démocratiques, voir comment ça se passe, et je parle pour l'éducation nationale, il n'y a pas quelque chose de caché, de sombre sous ce projet. Et puis, c'est aussi reconnaître, surtout que il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas faits pour le système scolaire classique et que ces écoles-là sont une alternative pour le développement de l'enfant. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, au Danemark, on va à l'école à partir de 7 ans. Voilà, on est quand même encore dans... Moi, je trouve qu'on marche sur la tête lorsqu'on vient chercher des poux dans la tête de ces écoles. Malheureusement, j'ai l'impression que l'éducation nationale est plus que rigide lorsqu'il y a des projets différents du sien. Est-ce que les écoles Montessori, par exemple, qui est un autre système d'école démocratique, rencontrent des problèmes ?
Alors, à ma connaissance, les écoles Montessori ne sont pas démocratiques au sens où il n'y a pas de conseil d'école, les élèves n'ont pas une voix aussi forte que les adultes pour gérer le quotidien, créer des projets. Mais effectivement, elles laissent une liberté à l'enfant dans le choix de ses activités, dans le choix de ses de ces apprentissages. À ma connaissance, non. Je pense pas qu'elles aient ce souci. Alors, les écoles Montessori s'adressent à des plus petits et ont ce système pédagogique qui fait que les enfants sont efficaces dans certaines matières qui sont chères à l'éducation nationale.
Oui, c'est ça.
Donc ça colle parfaitement à la grille de lecture.
On va marquer une pause et laisser passer l'info sur Europe 1 et on conclura après, Frédéric. Mais il est vrai que dans ce système où sont vos enfants aujourd'hui, il n'y a pas une réelle obligation d'une matière ou d'une autre qui colle au système actuel. Et c'est ce pourquoi, à mon avis, ça coince un peu. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
Oui,
à d'accord. Tout de suite. 23h passées de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou écrire au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme vous êtes nombreux à le faire ce soir et à commenter diversement ce projet d'école démocratique qui semble tout de même remporter vos suffrages, puisque pourquoi c'est la tendance qui se dégage de ces SMS. Pourquoi ne pas oser un autre système pour nos enfants, alors que c'est une évidence que pas mal d'entre eux ne sont pas faits pour le schéma traditionnel de cet enseignement. Je vais vous dire, Frédéric, je vais vous faire une confidence. D'ailleurs, j'ai moi-même essayé l'école démocratique. Alors pas la même que la vôtre, hein, mais il y a 2 ans ça a été un moment important, vraiment important, et je dirais très important dans l'évolution de mon enfant, en fait. Je pense que ces écoles peuvent vraiment, à un moment ou à un autre, se révéler être un sas où les enfants découvrent autre chose. Se développe. D'ailleurs, c'est aussi la philosophie, hein, de ces écoles qui, d'emblée, vous disent que elles peuvent être momentanées et qu'elles servent aussi d'un moment, d'une pause, d'un sas où on reprend confiance en soi, où on reprend confiance dans les autres aussi. Et je trouve vraiment, en tout cas, quand j'ai découvert ce système, mais bien évidemment, On est baigné, on baigne, nous parents, dans un système général. On n'a connu que ce système-là. Donc, il est certain qu'au début, on est un peu impressionné. On ne sait pas. Mais je peux vous dire que je ne regrette en rien d'avoir tenté ce moment-là d'école démocratique pour mon enfant, qui a été vraiment un tremplin et la possibilité pour lui de souffler, de reprendre confiance en lui, reprendre confiance dans la nature humaine et reprendre confiance en l'adulte aussi, qui ne se trouvait pas comme censeur et comme personne qui le notait, mais un adulte qui était là pour lui dire « Vas-y, tu vas réussir, c'est bien, sois fier de toi. Et puis, tu es aussi important que moi, surtout. Donc, tu as voix au chapitre autant que moi. » Et il y a, dans cette philosophie des écoles démocratiques, vraiment cette dynamique-là qu'on ne peut pas nier. Et c'est là où, si vous voulez, je trouve que le rectorat... je pense que ces gens-là ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas l'état d'esprit pour entendre et comprendre ça. Et c'est dommage. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je ne peux pas être plus d'accord que vous. Je suis en tout point en accord avec ce que vous venez de dire. J'ajouterais pour le rectorat que peut-être se pencher effectivement sur les résultats PISA de la Finlande, par exemple, hein, pour ne prendre que troisième sur 36 pays au classement, premier en Europe. Et de les comparer avec ceux de la France, tout simplement, entre la 15e et la 21e place sur 36 pays, et ça se dégrade, devrait inciter je pense, le ministère et les rectorats a peut-être plus d'attention sur ces écoles et moins d'obligations. Et parce que là, en fait, c'est même plus des obligations. En fait, c'est on les amène à l'asphyxie. D'ici 2 ou 3 ans, il n'y a plus d'école démocratique en France, alors qu'il y en a partout en Europe, qu'un système entier assez réformé avec beaucoup des pratiques qui sont faites dans ces écoles, qu'il est premier en Europe. Donc je pense qu'il faut peut-être le prendre en compte maintenant.
Sophia nous dit que les politiques sont psychorigides. Voilà pourquoi nous sommes en queue de classement dans beaucoup de domaines. Et les Nordiques sont bienveillants envers leur population. Mais c'est vrai que ça commence par les enfants. Et, et à tout niveau, c'est vrai que ces écoles démocratiques sont tout de même... calqué hein, en bien des manières sur ce système nordique mais je pense que l'éducation nationale voit ces écoles comme des ennemis potentiels ou en tout cas comme des je sais pas en tout cas voit trop négativement et je me souviens qu'à l'époque où mon enfant était dans cette école qui avait eu deux visites assez qu'on avait trouvé en tant que parent d'élève assez à charge, violente, et que surtout les inspecteurs étaient des gens qui d'emblée faisaient cette inspection avec un a priori profond et sévère par rapport à ces écoles. Voilà, c'est une question de philosophie, c'est une question de largesse d'esprit et on sait que ça n'est pas dû à tout le monde d'avoir cette largesse d'esprit. On va accueillir, si vous le voulez bien, Natacha, qui est professeure d'allemand, je crois, et qui tenait à intervenir par rapport à votre témoignage. Bonsoir Natacha.
Oui, bonsoir. Merci
bonsoir.
De m'accueillir.
Je vous en prie. Vous êtes professeure, c'est ça ?
Oui, c'est ça. J'enseigne l'allemand dans un collège, enfin dans deux collèges.
D'accord.
Et ce qui m'a amené à intervenir, c'est... Bon, alors, j'ai pas du coup tout entendu parce que j'étais au standard, mais quand j'ai entendu le monsieur parler de l'école démocratique et tout ce qui était mis en œuvre pour entraver cette école, ça m'a quand même fait penser à ce qui se passe au sein même des écoles publiques dont je fais partie, où on est effectivement plus dans l'enseignement, mais dans le bricolage. Alors, j'exagère un petit peu, mais enfin, c'est quand même ça la tendance. On fait cours, évidemment, encore, mais globalement, c'est du bricolage avec les heures. Un établissement, en fait, a un nombre d'heures qui est alloué. Avec lequel il doit fonctionner. Donc les heures en fait correspondent aux heures d'enseignement des professeurs devant la classe.
D'accord.
Et chaque année, ce nombre d'heures postes diminue, les nombres d'heures supplémentaires augmentent, ce qui fait que les professeurs se voient imposer obligatoirement, si besoin, 2 heures supplémentaires sur leur emploi du temps. Donc ça supprime des postes de fait puisqu'il y a des heures supplémentaires et ces heures surtout ne sont pas suffisantes pour fonctionner sereinement. Donc on se trouve à devoir bricoler.
Ouais.
Si on donne des groupes aux collègues de sciences pour fonctionner à 20 et non à 30 pour pouvoir faire des expériences, eh ben, on ne peut pas faire des groupes en langue. Ou si on donne de l'AP en anglais, eh ben, il faut enlever des groupes dans une autre matière. Moi, en allemand, par exemple, je me bats pour avoir 2 classes sur le même niveau parce que je m'investis beaucoup, beaucoup au niveau des primaires pour redorer l'image de l'allemand et montrer que ça peut être bien aussi de faire de l'allemand et les élèves sont très preneurs. Enfin, et en fait, on dit non, parce que si je vous donne 2 classes par niveau, ça coûte des heures. Et donc, il faudrait enlever l'AP d'anglais. Et les parents d'élèves, ils adorent l'AP d'anglais. Ou alors, il faudrait enlever les groupes en sciences physiques. C'est que ça. Là, j'ai une collègue de latin qui est un professeur extraordinaire que les élèves aiment beaucoup et donc elle a beaucoup d'élèves qui aimeraient faire du latin. 50 élèves.
Oui.
2 heures, normalement, sont allouées au latin. Sauf que, du coup, là, ça voudrait dire 4 heures, deux classes à 2 heures. Et donc, la principale ne veut pas parce qu'elle n'a pas ces heures-là ou il faudrait les prendre à quelqu'un d'autre. Après, on en arrive à des extrêmes où la principale ne sait plus que faire. Elle dit, faites des mauvais cours pour en démotiver certains. Évidemment, la collègue ne veut pas faire ça. Donc, elle se retrouve à faire 1 heure de latin à chacun des 2 groupes pour avoir ces 2 heures. Voilà, on est dans du bricolage. Les principaux, ce sont des gestionnaires. On en perd l'aspect humain. Les professeurs se retrouvent avec des élèves à des classes à 30 sans possibilité de dédoublement. Ou alors, c'est les petites matières comme les miennes, entre guillemets, qui souffrent avec du coup une tendance à exclure les petites matières et donc avec moins de pluralisme dans l'enseignement. Il me semble qu'on est quelque chose d'éminemment important et démocratique. Moi, je suis très en colère, en fait. Je suis enseignante par vocation. Et ce n'est pas comme ça que je considère, que j'envisage l'enseignement. Voilà. Et pour moi, ça rejoint tout à fait ce qui se passe avec les écoles démocratiques. Voilà, on cherche à faire des économies à tout bout de champ, à réduire tout ce qui sort du rang, et je comprends pas.
Non, mais c'est très bien d'avoir l'avis d'une professeure, hein, pour le coup, c'est très très bien, parce qu'on s'aperçoit que au final, vous ne comprenez pas la même chose que Frédéric. Hein.
Mais c'est exactement.
Bon, après, vous êtes prof vraiment dans le système
standard. Il y a 15 ans en arrière, moi j'ai 16 ans d'ancienneté, il y a 16 ans en arrière, c'était pas comme ça.
Non.
J'ai vraiment vu une dégradation. Il y a 16 ans en arrière, globalement, on pouvait vivre sereinement à l'intérieur du collège, il n'y avait pas toutes ces... Enfin, là, quand je suis en salle des professeurs, mais globalement, c'est pas la joie. J'ai une collègue qui a démissionné là, de l'éducation nationale en début d'année. J'en ai une autre qui est en dépression, qui pense à quitter aussi. Et tant d'autres qui sont dégoûtés du fait de ces conditions-là, quoi. Créer des tensions aussi entre les matières, parce que forcément, il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc, c'est quoi enfin, l'objectif, ça devrait être les élèves. L'important, ça devrait être les élèves. On ne devrait pas se batailler pour des petits bouts d'heures. Toi, je te donne ci, moi, je prends ça. Ou toi, je te prends ça parce que moi, je suis plus importante que toi. Où on va ?
Et quel regard vous portez, vous, justement, sur ces écoles démocratiques, ces nouveaux modèles d'enseignement ?
Je suis à 3000% pour une évolution de l'éducation nationale, pour que ça aille vers ce genre de pratique beaucoup plus avec beaucoup plus de liberté. Déjà dans mes classes, et j'essaye à mon humble niveau les contraintes que j'ai, hein, mais j'essaye de créer une ambiance de classe et des conditions d'apprentissage qui valorise l'enfant, qui le déstresse, que les élèves sont extrêmement stressés. J'accorde beaucoup d'importance à la relation à l'élève. Après, je suis pas la seule. Hein. Après, c'est moi qui vous parle, donc c'est plus facile de parler de soi que c'est des autres. Mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Hein.
Oui. Non, mais non, je voulais rebondir parce que effectivement, j'entends tout à fait ce que vous dites, madame, et pour avoir beaucoup d'enseignants dans mon entourage, vous n'êtes pas la seule, c'est certain, pour suivre aussi un petit peu les groupes d'enseignants qui tentent des choses différentes, qui s'inspirent justement de ces modèles, on sent quand même la détresse de ne pas pouvoir déjà de ne pas trop avoir la liberté pédagogique que vous devriez avoir pour établir ce genre de choses, en plus du manque de moyens criants.
Ah oui, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Et oui, c'est bien de plus en plus difficile. Moi, j'avoue que je tiens parce que j'aime profondément ce que je fais. Mais c'est pas facile tous les jours. Là, je suis actuellement sous antidépresseur. J'ai été en arrêt quelques semaines. Et pourtant, moi, pour que je me mette en arrêt, ben, faut vraiment le faire. Mais voilà, quand je m'entends dire qu'il y a plus important que l'allemand par ma propre principale, qu'on essaye de m'imposer un double niveau alors que j'ai subi de plein fouet le Covid l'année dernière, qui fait que j'ai pas pu faire la publicité habituelle. En fait, si je réussis, ben, on me refuse des heures en plus. Et si j'ai pas assez d'élèves tout de suite, c'est le coup de bâton. Donc en fait, c'est toujours moi qui perds dans l'histoire. Et c'est de plus en plus comme ça pour plein de professeurs. Et je parlais au standard aussi tout à l'heure. Il y a tellement de choses qui vont pas. Il y a de plus en plus de professeurs non formés qui sont des contractuels, qui n'ont aucune formation, qui enseignent à notre place. Donc, on doit être un des rares métiers où n'importe qui peut soi-disant nous remplacer comme ça au plus levé. Et puis ces personnes-là, elles sont payées à coup de lance-pierre, elles ne sont pas payées pendant les vacances, donc congés payés, on va dire. Voilà, au niveau des AVS, c'est pareil, ce n'est pas un vrai métier, ils n'ont pas la reconnaissance salariale qui convient, ils n'ont pas de formation alors qu'ils font un vrai métier, ils jouent un rôle important auprès des élèves qui ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Au niveau des assistants d'éducation, c'est pareil. Il n'y a aucune reconnaissance. Ce sont des contrats à durée déterminée, maximum 6 ans. Alors que justement, c'est le fait que ces personnes-là soient là depuis longtemps, ça apporte un plus, clairement, à l'établissement. Mais ça, non pas moi d'ailleurs, mais... Le ministère n'en a que faire. L'objectif, c'est faire des économies. Et à côté de ça, par contre, on dit tout le contraire au niveau des informations, etc. Hein. Au niveau de la gestion du Covid, il y aurait tant à dire aussi. Hein. Les principaux ont été prévenus pour la rentrée en septembre. Ils ont été prévenus du changement de protocole. Le vendredi, nous avions notre pré-rentrée le lundi et la rentrée des élèves se faisait le mardi. Et ils ont eu, c'est le principal qui nous l'a dit à la pré-rentrée, ils ont eu les détails de ce nouveau protocole le dimanche après-midi. Est-ce que c'est respectable? Enfin, est-ce que c'est respecter les principaux? Il ne me semble pas.
Mmh, vous avez raison.
On pourrait tellement multiplier les exemples.
Bon, en tout cas, on voit que ça n'est pas parfait de l'autre côté et que lorsqu'en fait, on est amené à voir que de l'autre côté, c'est quand même ces gens-là qui vous visitent dans les écoles démocratiques, qui vont donner leur avis. Je pense que, bon, voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire au niveau
et
de l'enseignement.
Beaucoup à changer, ça
beaucoup
c'est sûr.
Beaucoup à changer déjà dans l'éducation nationale, mais aussi laisser d'autres
dans
philosophies.
Respect.
Dans le respect
tout
des autres philosophies.
Tout à fait. Et juste une précision sur le rectorat. Le rectorat n'est pas une instance décisionnelle. Hein. Le rectorat juste applique les décisions prises au-dessus.
D'accord.
Oui, alors c'est effectivement, du coup, ça a tout son sens d'interpeller le ministre de l'Éducation nationale, je pense.
Tout à fait, tout à fait. Quand on demande des heures supplémentaires au rectorat, on nous dit, nous, on n'a pas plus à vous donner. Parce qu'eux aussi, ils reçoivent une enveloppe qui sont chargées de dispatcher entre les différents établissements, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Mm-hmm. Donc ça vient vraiment de plus haut, et donc du ministre.
Bon, en tout cas, on voit combien les choses sont à revoir et vraiment à...
Oui, oui. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé ce soir, parce que moi, il me semble vraiment que c'est alarmant, là, actuellement, ce qui se passe. Et l'autre jour, j'étais tellement en colère, tellement remontée, tellement... Et je me disais, faudrait écrire une lettre à tous les... à toute la presse pour que ce soit pas juste les syndicats et
alors,
que ce soit visible en fait. Voilà, je le fais pas.
Justement, moi je l'ai fait.
Donc, je me permets de rebondir parce que bon, là, on parlait des écoles démocratiques, mais ça va bien au-delà, comme vous venez de nous le démontrer avec brio. Donc, j'ai écrit une tribune avec des amis professeurs, mais aussi des membres des écoles démocratiques. Elle est en ligne, on cherche des signataires, elle est là pour alerter, elle est là pour faire en sorte que les médias s'intéressent à la chose, mais aussi que, pourquoi pas, des personnalités du monde public s'emparent de la chose. Si vous êtes intéressé par venir la signer et la soutenir, c'est une tribune qui a été écrite aujourd'hui, je donne le lien internet, ça c'est école démocratique avec un S, .otts.fr, donc O comme Olivier, T comme Thérèse et S comme Sylvie. Mmh. Donc école démocratique.otts.fr, j'invite à venir lire et à venir soutenir cette tribune en la signant. Parce que elle est là pour interpeller sur le sort des écoles démocratiques, mais pas que. Elle est là aussi pour entamer, j'espère, une réflexion et la porter à notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'il pouvait la lire lui-même, ça serait bien. Elle porte des demandes, je pense que dans lesquelles se reconnaîtront aussi bien des enseignants du public.
Bon, voilà. Bah écoutez, l'appel est lancé. Merci mille fois, en tout cas, pour votre intervention, Frédéric. Et j'espère que des oreilles averties auront entendu notre échange et rapporteront l'essentiel. Ne raccrochez pas, vous allez donner à Florian l'écriture exacte de cette adresse que vous venez de me donner. Comme ça, on la mettra sur le groupe de parole de la Libre Antenne, d'accord ? Pour que celles et ceux qui nous écoutent ce soir puissent la signer s'ils le veulent. Merci mille fois, Frédéric. Baiser aux enfants et puis courage à tous les parents d'élèves, les élèves et puis aussi ceux qui sont à l'origine de ces écoles démocratiques qui affrontent vents et marées, je le sais, mais c'est pour que tout ça avance, n'oublions pas. Merci Frédéric, bonne soirée. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.